Chers amis, pour situer dans le temps et dans l'espace notre rassemblement de ce soir, permettez-moi de rappeler que c'est en 2015 que le pape François a institué pour l'Église catholique une journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création. Une journée qui, rapidement, dès 2019, est devenue un mois entier. Et c'est dans le cadre de ce mois que nous nous inscrivons ce soir. Dans le cadre de ce mois qui court jusqu'au 4 octobre prochain et qui unit donc, dans une prière commune, les catholiques du monde entier. Notre assemblée ce soir est donc plus large encore que ce que nous pouvons en voir. Elle a cette dimension mondiale. C'est à cet effort mondial de prière que nous avons tenu en venant ce soir à prendre notre part. Et cette année, ce mois de la création a pour thème un verset emprunté au prophète Amos, que le droit jaillisse comme une source, la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. Voilà un thème qui associe donc, vous l'avez entendu, le thème de l'écologie à celui de la justice à travers la métaphore de l'eau. Voilà un thème qui nous dit que la justice est aussi nécessaire à notre vie ensemble que l'eau peut l'être à notre vie physique. Voilà un thème qui nous dit que sans justice, comme sans eau, il est impossible que la vie s'épanouisse pleinement. Et je n'ai pas besoin, chers amis, de développer beaucoup à quel point toutes ces harmoniques résonnent avec notre réalité audoise, et plus particulièrement peut-être avec notre réalité narbonnaise. Nous savons combien dramatique devient aujourd'hui chez nous cette question de l'eau. Nous savons combien cette question est sous-tendue dans ses origines mêmes par des questions de justice liées à nos comportements fondamentaux et combien dans les solutions qu'il nous faudra trouver, la justice apparaît d'ores et déjà comme la seule clé possible. Oui, j'ai été particulièrement touché de voir à quel point ce thème donné, je le répète, aux catholiques du monde entier, est un thème pour nous, les Audois, pour nous, plus encore, les Narbonnais. Voilà pourquoi je vous le disais en commençant, je suis si content que nous ayons été cette année au rendez-vous de cette prière, au rendez-vous de cette mobilisation mondiale. Alors c'est vrai, nous ne sommes pas là pour nous payer de mots. Il nous faut quand même nous demander si un tel thème est beaucoup plus qu'un vœu pieux. Que le droit jaillisse comme une source, la justice comme un torrent qui ne tarit jamais, est-ce bien réaliste? Pour quiconque suit l'actualité du monde, pour quiconque connaît la dureté des relations humaines, y a-t-il là plus qu'un vœu pieux? Sans doute pas. Sans doute pas. Et c'est là la raison qui nous oblige, nous croyants, à nous saisir de ce thème. Parce que qu'est-ce qu'un vœu pieux? Si pour la plupart de nos contemporains, c'est une déclaration d'intention assez loin du réel, pour nous, prenons les choses au pied de la lettre, un vœu pieux, c'est un vœu qui vient de Dieu. Un vœu pieux, c'est l'expression même du désir de Dieu. Et si Dieu confie au prophète Amos le soin de porter ces mots, que le droit jaillisse comme une source, la justice comme un torrent qui ne tarit jamais, c'est bien que c'est là son désir. Et pour nous croyants, nous ne devrions finalement pas avoir besoin d'autres raisons pour nous engager dans un tel combat. D'autres raisons que de savoir que c'est le désir de Dieu. Il y a quelque chose d'un peu paradoxal, au fond, à constater que parfois, nous, les chrétiens, nous donnons l'impression d'être un peu les derniers concernés par les questions écologiques, ou en tout cas les derniers mobilisés. Parce que si tel est le désir de Dieu, alors nous devrions être aux avant-postes de tous ces combats. D'ailleurs, l'évangile que nous avons entendu ce soir ne dit pas autre chose. Lui qui, dans cette si jolie parabole, a mis en scène Dieu sous la forme d'un roi infiniment magnanime et pourtant capable de la plus profonde colère devant le constat de l'injustice de son serviteur. Et d'ailleurs, ça n'est pas la seule harmonique de cette page d'évangile avec le thème de cette journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création. Peut-être que le contact le plus direct avec le thème qui nous rassemble, c'est l'image de la dette sur laquelle joue Jésus pour mettre en scène la réalité de la faute. Pourquoi Jésus associe-t-il ainsi la faute à une dette? Et pas seulement dans cette parabole, mais fréquemment dans son enseignement. Nous connaissons tous la prière du Notre Père, dont la formule exacte n'est pas « pardonne-nous nos offenses, mais remets-nous nos dettes ». Pourquoi cette association d'idées systématiques? Si ce n'est parce que la faute, comme la dette, ont en commun de condamner l'avenir. Et s'il est un terrain sur lequel nos fautes, de manière certaine, condamnent l'avenir, c'est bien le terrain de l'environnement, c'est bien le terrain de l'écologie. Alors oui, je crois que c'est d'abord devant cette réalité-là que nous devons nous situer en croyant la réalité du désir de Dieu que grandisse la justice sur ces questions d'environnement et d'écologie. Fort de cette certitude, nous monte forcément au cœur la question de la foule, écoutant saint Pierre dans sa prédication de la Pentecôte. Que devons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Dans son message pour ce temps de la création 2023, le pape François trace un chemin précisément balisé qui commence par la transformation de notre cœur, passe par la transformation de nos pratiques et de nos attitudes pour s'épanouir dans la transformation des politiques publiques qui sont menées là où nous vivons. Tout commence, rappelle le pape François dans son message, par la transformation du cœur. C'est le préalable à toute autre chose, à toute autre transformation plus visible. Et à cet égard, il est important de souligner que François ne dit rien de neuf. C'est Saint Jean-Paul II, le premier pape à avoir parlé de conversion écologique. C'est lui le premier qui a su pointer du doigt le fait qu'il y a véritablement un enjeu spirituel à être capable de considérer la nature qui nous entoure, non pas comme un ensemble de ressources à exploiter, mais d'abord et avant tout comme un don sacré du Créateur. C'est dans ce changement de regard que réside précisément la conversion écologique, porte ouverte à toutes les possibilités de transformation de nos modes de vie, qui commence par faire le compte de nos péchés écologiques, n'ayons pas peur des mots, par faire le compte de nos gaspillages, de nos consommations inutiles, qui ne sont pas simplement des fautes contre l'équilibre de la planète, mais pour nous croyants, des péchés, en bonne et due forme. C'est dans cet examen de conscience, en vérité, chacun pour nous-mêmes, que naîtra la possibilité de collaborer positivement à la création continue de Dieu par nos choix et par nos actes. Et la beauté de l'après-midi que nous venons de vivre, que ce soit dans les ateliers qui se trouvaient tout autour du cloître ou dans la table ronde que nous avons pu partager, c'est de nous avoir montré que, en matière d'actes positifs, en matière d'initiatives à prendre, il y a tant à faire de possible. Le pape François nous invite à ne pas nous replier pour autant sur la seule sphère de nos initiatives privées. Il nous invite à considérer que tous nos engagements en la matière aboutissent dans la transformation des politiques publiques là où nous vivons. C'est une manière de nous rappeler à nous croyants nos responsabilités citoyennes, les responsabilités que nous devons sans cesse investir et réinvestir à travers les engagements que nous prenons. Oui, il y a un véritable chemin sur lequel il nous faut nous engager et progresser sans cesse pour que s'accomplisse le désir de Dieu, que le droit jaillisse comme une source, la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. Un chemin qui, me semble-t-il, a été résumé avec une synthèse plus complète encore que dans le message du pape François, par saint Paul lui-même, dans la deuxième lecture. Lorsqu'il nous a dit « Frères, aucun d'entre vous ne vit pour soi-même, aucun ne meurt pour soi-même. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. » Voilà, me semble-t-il, chers amis, la règle d'or de toute relation juste à soi-même, aux autres, à la nature et à Dieu lui-même. Considérer que rien ne nous appartient, pas même nous-mêmes, parce que dans notre vie, comme dans notre mort, tous, nous appartenons au Seigneur. Voilà, me semble-t-il, le ferment pour nous, catholiques, d'un véritable programme d'action écologique. Parce que s'enraciner dans cette vision des choses, considérer véritablement que celui ou celle que je regarde, l'arbre que j'ai sous les yeux, la rivière qui coule sous mes pieds, ne m'appartient pas, mais qu'elle appartient à Dieu, et que comme elle, j'appartiens à Dieu, nous met d'abord dans une disposition évidente de solidarité. Si nous avons le même propriétaire, l'arbre qui est à ma gauche et moi, alors nous pouvons nous considérer comme frères. Quand saint François d'Assise, dont la famille franciscaine fait aujourd'hui les stigmates, appelait l'eau « sœur eau », il ne faisait pas simplement de la poésie de bas étage. Il exprimait cette réalité théologique fondamentale que, comme lui, l'eau appartient à Dieu. Cette posture permet donc une approche de solidarité, une approche de respect, évidemment, et finalement, une approche d'émerveillement. Il est beau qu'au début de cette célébration, il nous ait été rappelé que cette posture d'émerveillement est la porte d'entrée dans tout engagement en faveur de l'environnement. Chers amis, Paul nous donne ce soir la raison même de cet émerveillement. La manière de grandir encore dans cette attitude. Oui, considérer que dans notre vie comme dans notre mort, nous et tout ce qui nous entoure, nous appartenons à Dieu, c'est la première façon d'entrer dans l'accomplissement de son désir, celui exprimé par les mots du prophète Amos.